Je vais enlever le masque, ça évite la buée sur les lunettes. Pas pratique. Et puis, je voudrais qu'on commence ensemble à lire simplement deux passages dans la parole de Dieu. Un premier passage dans Ésaïe au chapitre 40. Alors, si vous avez, donc je ne le projette pas, hein, si vous avez vos Bibles, je vous encourage à le lire dans vos Bibles. Sinon, ben, bien sûr, d'écouter. Ésaïe 40. Et puis je vais lire allez, à partir du verset 28. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut même pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc voilà quelle est l'action que Dieu peut avoir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps. C'est de nous renouveler, nous donner de la force. Hein, je résume. Même les adolescents, est-il dit, se fatiguent et se lassent, et pourtant c'est eux qui ont le plus d'énergie parmi nous en général, mais même ceux-là, à un moment donné, ils vont craquer, et Dieu, par contre, peut redresser, peut fortifier même celui qui, a priori, n'avait pas la force de continuer. Et puis, un deuxième verset, dans Matthieu 6, 12, donc... Cet extrait du Notre Père, je ne vais pas lire le Notre Père en entier, simplement, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous connaissez, hein, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ce matin, je voudrais qu'on voit ensemble, après avoir lu ces deux passages, hein, où Dieu donne, il nous a dit que Dieu nous fortifie et nous guide, et puis un deuxième passage où il a dit que Dieu nous demande de pardonner comme lui-même nous a pardonné. Je voudrais qu'ensemble, on puisse voir un extrait de film, parce que ce matin, je vais vous parler de la vie d'un monsieur qui s'appelle Louis Zamperini. Voilà, il y a un livre qui raconte sa vie qui est sorti en 2012, je crois, à peu près. Hein. Vous le trouverez, je ne sais pas s'il se trouve encore en librairie, mais il est sorti à peu près en 2012. Ça, c'est le livre. Et le livre a été traduit en film. Donc, le premier film qui s'appelle Invincible, sur à peu près la moitié du bouquin. Et le deuxième, donc ça c'était en 2015, et je vous en ai parlé à la barre déjà, de ce monsieur Zamperini. Qui s'en souvient? C'est pour un sondage. 1, 2, 3, 4. Hein? C'était pas ici, c'était à Montigny encore. Je suis sûr qu'on était à Montigny. Bon, j'en ai déjà parlé. Donc, le premier film est sorti en 2015, il correspond à la première moitié du livre. Et le deuxième film, c'est pour ça que je reprends ce matin, parce que le deuxième film est sorti entre-temps. Et ça, je m'en suis aperçu il y a 3 jours. Le deuxième film est sorti en 2018, c'est Invincible 2. Et je voudrais qu'on voit ensemble rapidement l'histoire de ce monsieur Zamperini, qui est un héros de la guerre du Pacifique, entre les Japonais et puis les Américains. Et on va passer dans 5 secondes, on va passer la bande-annonce du premier film pour se remémorer un petit peu de quoi il s'agissait. Allez, on y va pour la bande-annonce du premier film.
Parce que c'est moi qui en ai parlé ici à Moussa, en fait. Une fois.
Peut-être. Ah. Bon, allons-y.
Tout cet océan.
On approche à 3 heures. Enfin !
Mon frère me croyait capable de tout réussir. Il me croyait meilleur que je le suis.
Continue sur cette voie et tu finiras clochard. Tu t'entraînes. Tu te bats plus que les autres et tu gagnes.
Ça pourrait être le sprint le plus rapide de l'histoire des Jeux Olympiques.
Si tu tiens, c'est gagné.
Préparez-vous à l'impact.
va mourir.
On va pas mourir!
Tu crois qu'il y a une intention derrière tout ça? Pour qu'on ait survécu et pas les autres?
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Vous êtes ennemis du Japon. Vous serez traités en conséquence.
Bienvenue, si on veut.
Nous avons parmi nous un athlète olympique. Regarde-moi. Tu n'es rien. Cet homme doit apprendre le respect. Chaque prisonnier va lui donner une leçon.
Survivre à cette guerre, tenir jusqu'au bout, ce sera notre revanche.
Si je tiens, c'est gagné.
Vas-y.
Plus fort!
Allez, cogne!
Plus fort!
Cogne-moi!
Chère mère, cher père, c'est votre Louis qui vous parle. C'est le premier signe de vie que je donne depuis 2 ans. Je ne suis ni blessé ni malade.
S'il la lâche, tuez-le.
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année.
Tiens bon.
Conseils si vous avez du mal à voir certaines choses un petit peu dures. Par contre, le deuxième, vous pouvez y aller. Hein, sachez-le, le premier est très dur. Le deuxième est beaucoup. Ça, c'est la bande-annonce du premier seulement. La bande-annonce du deuxième, en français, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas voulu le passer en anglais parce que voilà, ça aurait traduit, mais ça complique un peu les choses et je l'ai pas. Elle existe également, bien sûr, sur YouTube, vous les trouvez les deux. Mais j'ai trouvé que la bande-annonce du premier en français sur YouTube. Alors, c'est l'histoire de ce monsieur. Pourquoi est-ce que je vous parle? Ce que je voudrais, c'est qu'on voit un petit peu ensemble quelles sont les leçons que cet homme a vécues au cours de sa vie. Il a vécu 3 leçons essentiellement que j'énumérerai tout à l'heure. Alors, il a un destin qui est incroyable, hein. Je résume, maintenant je vais parler du premier film pendant un certain temps, du premier film avec la bande-annonce que l'on vient de voir. Monsieur Zamperini, c'est quelqu'un qui est né en 1917. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il aurait 103 ans. Fils d'immigrants italiens, né en 1917, il a grandi dans la banlieue de Los Angeles, et puis... Là-bas, il a eu une jeunesse qui était dans une grande ville. Il a eu une jeunesse, une adolescence même, où il était délinquant. Il a fait plein de bêtises en tout genre qu'on voit dans le film. Il volait, il était violent, etc. Et puis, son frère a cru en lui et son frère a essayé de sortir de ce milieu délinquant en lui faisant faire du sport. Et ça a marché. Il a commencé à faire de la course à pied et faisant la course à pied, eh bien, il a enchaîné victoire sur victoire, progrès sur progrès. Il a battu le record du monde du mile. Alors pour nous, c'est à peu près 1600 mètres. Hein. Donc c'est à peu près un 1500 mètres pour ceux qui ne sont pas anglophones. Son record, il va battre le record du monde étudiant du 1500 mètres. Et ce record va tenir 18 ans. Et les conditions dans lesquelles il va battre ce record, c'est assez extraordinaire. À l'époque, les gens étaient... C'était pas comme aujourd'hui. Ils se tapaient, ils se donnaient des coups de coude, ils se donnaient des coups de crampons également. Et ses concurrents lui ont donné des coups de crampons pendant qu'il courait. Ils ont donné des coups de coude, ils ont cassé une côte. Et malgré cela, il réussit à battre le record du monde du 1500 mètres en à peu près 4 minutes. Alors... Il est avec une côte fêlée et puis des blessures aux pieds. Il avait les pieds qui saignaient tellement il avait pris de coups. Ensuite, il va être sélectionné pour courir aux Jeux Olympiques de 1936. Donc, c'est Hitler qui présidait à l'époque les Jeux. Il a, bon, c'est pas une référence bien sûr, mais il a serré la main de Hitler qui l'a félicité pour sa finale du 1500 mètres où il a terminé 8e. Et Hitler lui dira: « Ah, c'est vous le garçon qui terminait si vite, parce qu'il terminait ses courses, il les commençait relativement bien, et puis il terminait très 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 fort. Il était félicité par Hitler. Ensuite, il y a eu les Jeux Olympiques de 1940 qui ont été supprimés, ça devait être je ne sais plus où, à Tokyo normalement, mais bon, le Japon étant entré en guerre, les Jeux Olympiques, bien sûr, de 40 n'ont jamais eu lieu. Et il va continuer malgré tout de courir sans participer à ces Jeux Olympiques de 1940. Et il va être appelé à la guerre. Alors à la guerre, il sera bombardier, c'est-à-dire qu'il sera dans un avion qui est chargé de lâcher des bombes. Et il fait partie de la quinzaine à peu près de soldats qui sont dans le bombardier et qui le dirigent et qui le contrôlent et qui s'en servent pour bombarder, malheureusement, mais c'est comme ça. Un jour, son avion va être abattu et on va retrouver près de 600 trous dans la carlingue. Il va s'en sortir. Ensuite, je crois qu'il est sur un porte-avions. Sur le porte-avions, il va se scratcher le 23 mai 1943 avec 11 autres de ses camarades. Et après le scratch, il n'y en a que 3 qui vont survivre. Alors, ils vont survivre dans un bateau pneumatique. Ils vont survivre pendant sans boire, sans manger, pratiquement sans boire, parce qu'il faut qu'ils attendent que l'eau vienne du ciel à un moment donné, pendant 47 jours. 47 jours dans un bateau pneumatique. Difficile de ne pas y rester. Hein. Il n'y en a que 3 qui ont survécu sur les 11. 47 jours, ils vont dériver sur 3000 km. 47 jours, 3000 km. Il y a les requins. Ils ne peuvent pas laisser traîner leurs pieds un petit peu en dehors du radeau pneumatique parce qu'ils seraient chatouillés par les requins. Ils vont survivre à un ouragan également. Ils vont survivre à un avion japonais qui va les mitrailler. On ne comprend pas très bien, mais cet homme, dont la vie ici a basculé, va malgré tout survivre. C'est incroyable, mais c'est ce qu'on a vu hein, dans la bande-annonce. On les voit dans le radeau, ils vont survivre à toute la série de choses dont je viens de vous parler. Et puis là, ils vont être enfin, si on peut dire, faits prisonniers par les Japonais. Pendant 43 jours, ils vont être torturés, on va leur injecter. Vous savez, à l'époque, les Allemands et les Japonais vous injectaient des médicaments pour faire des essais thérapeutiques. Et il va survivre même à cela. Donc les essais thérapeutiques, les mauvais coups. On va lui taper dessus, comme vous l'avez vu, hein, c'est dur, mais c'est une réalité. Hein, je veux dire, la bande-annonce, elle n'est pas au-delà de la réalité de ce qu'ils ont vécu. Hein. On est complètement dedans. Et puis au bout de 43 jours enfermés dans cette geôle de 2 mètres sur 1 mètre, 2 mètres sur 1, hein, en souffrant tout ça, il va être intégré dans un camp de prisonniers au Japon cette fois. Mais c'est le camp de prisonniers, en fait, c'est un camp de concentration. Vous savez, pendant les guerres, il y a des pays qui respectent les lois sur les prisonniers. Les Japonais, ce n'était pas le cas du tout. Hein. Il va continuer d'être torturé pendant encore 2 ans. Pendant encore à peu près 2 ans. Torture, voilà. On a vu la bande-annonce. Je ne vais pas redécrire les choses parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous dire que cet homme a finalement réussi à survivre à tout cela. Et ça, c'est incroyable. La dérive en mer pendant 47 jours... un mois à peu près dans un camp où il est maltraité, et puis 2 ans encore dans un autre camp où il est encore maltraité, où il reçoit des coups, il ne mange pas à sa faim, etc. Et puis en juillet 45, ils apprennent qu'ils vont être exécutés parce que les Japonais ont le projet de ne laisser personne derrière eux en perdant la guerre. Finalement, on ne sait pas très bien pourquoi, mais ils ne vont pas être exécutés. Et encore une fois, ce monsieur va survivre. Alors qu'il n'aurait pas dû, alors qu'il aurait dû mourir, Monsieur Louis Zamperini va survivre encore. Il ne va pas être exécuté. Il va être libéré en septembre 45. Là, il y a un avion qui le ramène aux États-Unis et ils vont manquer de se scratcher. Bon, j'ai pas l'histoire, le détail, mais encore une fois, il va échapper à la mort de façon miraculeuse. Et puis il rentre aux États-Unis. Et là, il est accueilli à bras ouverts. Et là, on est à la fin du premier film, qui était fait par Angelina Jolie, que tout le monde connaît. Donc ça, c'est la fin du premier film, c'est à peu près les 2/3 du bouquin. Donc là, il arrive chez lui, il rentre aux États-Unis, et il a accueilli comme un héros. Et Angelina Jolie, le but de la réalisatrice du film, ça a été de montrer qu'on avait là quelqu'un qui avait une extrêmement forte volonté. Et Angelina Jolie s'est arrêtée là, dans son film, parce que son objectif, c'était de montrer que cet homme était un homme extraordinaire, qui avait échappé à la mort par miracle, mais on ne sait pas très bien comment, mais elle voulait montrer la volonté extraordinaire, parce que c'est un homme qui avait une volonté qu'aucun d'entre nous, je crois, ici ou parmi les gens que je connais, une volonté comme ça, faut chercher pour trouver. Hein. Et il rentre donc aux États-Unis, et là, c'est le deuxième film. Et là, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on voit en fait que là, ce monsieur était limité. Tu peux passer la deuxième dia, s'il te plaît ? Voilà. Il va découvrir qu'il avait la volonté, comme l'apôtre Paul le confessait lui-même, l'apôtre Paul qui est un autre personnage qui avait une très forte volonté. Hein. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire du bien. Et là, il va chuter. Et là, il va se casser la figure. Il est accueilli comme une vedette, il fait des conférences, etc. Il va se marier, il va avoir une petite fille. Qu'est-ce qui va lui arriver encore ? Je ne sais plus, mais il lui arrive beaucoup de choses. Hein. Donc, notoriété, il se marie, il a un enfant, il fait des conférences. Et puis, par contre, c'est la nuit qu'il a des problèmes, parce que la nuit, il va faire des cauchemars. Pourquoi il fait des cauchemars ? Vous avez bien, comprenez bien pourquoi. Il va se rendre compte qu'en fait, il est limité, qu'il fait des cauchemars. Et pour échapper à ces cauchemars, ben, il trouve qu'un moyen, c'est l'alcoolisme. Il va devenir vraiment alcoolique, malhonnête. Il rentre dans des affaires financières qui semblent un petit peu louches. Et il va se mettre à boire. Et comme beaucoup de gens qui se mettent à boire, ben, il va finir par taper sa femme. Puis il va même un petit peu être maladroit avec son enfant. Et c'est ce qui est raconté dans le livre et dans le deuxième film. Hein, on est dans le deuxième film là et dans la deuxième partie du livre. Et là, il se rend compte qu'il est dans la même situation. Il ne connaît pas l'Évangile, hein, mais c'est moi qui compare. Il est dans la même situation que l'apôtre Paul. Il voudrait faire le bien. Il essaye parce qu'il est de bonne volonté, cet homme. Il a une forte volonté, mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que malgré sa forte volonté et malgré sa personnalité exceptionnelle, eh bien, il est limité et il a vécu des choses qui sont tellement dures que personne ne peut sortir indemne d'avoir vécu des choses comme celle-là. Enfin, il va se souvenir d'une chose, c'est que quand il était dans son canoë, rappelez-vous, il a fait une promesse à Dieu. Et la promesse à Dieu, c'est la suivante, je vais vous la lire. Il a dit, quand il était dans son bateau à la dérive pendant 43 jours, là, « Seigneur Dieu, ramenez-moi sain et sauf chez moi et je vous servirai jusqu'à mon dernier souffle. » Il l'a dit, il s'est souvenu l'avoir dit, et là, Dieu va le rattraper. C'est incroyable, hein. Remarquez bien que Dieu ne l'a pas rattrapé tout de suite. Après avoir dit cela et que Dieu ait entendu, il s'est passé 2 ans de camp de concentration, quoi. Donc, on pourrait dire, Dieu l'a abandonné pendant 2 ans. Eh bien, non. Il s'est passé que c'est difficile. On ne comprend pas, moi, le problème du mal sur Terre, de la souffrance. Je ne connais aucun philosophe qui ne m'ait jamais apporté une réponse satisfaisante sur le sujet. Mais, pendant 2 ans, il semblerait qu'il ait été abandonné. Et puis, il semblerait. Mais au bout de 2 ans, il va comprendre. La dia suivante, s'il te plaît. Merci. Il va comprendre que c'est Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son plan. Là, il va comprendre qu'en fait, Dieu a dirigé, malgré les apparences, que Dieu a dirigé toutes choses. Donc, il a compris une première chose, c'est qu'il n'avait pas la force que lui-même. C'est Dieu qui fortifie. Il a compris une deuxième chose, c'est le fait que c'est Dieu qui conduit. Hein, il n'avait pas le pouvoir de faire le bien. Il faisait le mal, mais c'est Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et en 1950, il a 33 ans à l'époque, eh bien, sa femme, qui était chrétienne, mais chrétienne traditionnelle, si j'ai compris, va aller à une campagne de Billy Graham. Alors, j'en connais un autre ici, je crois, qui s'est converti à une campagne de Billy Graham. Ah non, c'était pas Billy Graham, Christian, c'était... excuse-moi. C'est Billy Graham que tu as entendu ? Non, c'était Nicky Cruz, pardon. Excuse-moi, je confonds. Donc son épouse va aller à une campagne d'évangélisation. Alors c'est marrant, on est dans les années 50. Hein. Donc c'est pas le style d'aujourd'hui, mais c'est Billy Graham. On a vraiment l'impression de faire un retour en arrière quand on voit le film. Mais c'est super. Et là, son épouse se convertit. Son épouse se convertit et elle qui voulait divorcer, lui dit à son mari, je t'aime, je ne vais pas divorcer. Et elle essaye de l'entraîner, c'est une campagne, donc les jours se suivent, puis les soirées d'évangélisation se ressemblent. Et elle essaye de l'emmener, elle a bien du mal, mais finalement il finit par y aller. La première fois, il va et il s'en va. La deuxième fois, il va et il reste, et il tombe sur ses genoux et il s'est converti. Tu peux y aller. Donc ça, c'est la troisième chose. Il comprend c'est Dieu qui l'a toujours conduit et que c'est Dieu qui fait concourir les choses et que c'est Dieu qui s'est occupé de lui pendant ces années où on ne le voyait pas. Dieu, malgré tout, était là et c'est Dieu qui l'a fortifié. On peut repasser la dia qui suit. Même les jeunes hommes chancellent, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, mais ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc il a découvert trois choses, M. Samperini. Il a découvert, un, c'est Dieu qui fortifie, nos forces sont limitées, c'est Dieu qui fortifie. Deuxième chose, c'est Dieu qui conduit, même si les apparences sont contraires, c'est Dieu qui conduit. Puis troisième chose qu'il a découvert, c'était que c'est Dieu qui lui... Je vais le voir maintenant, la troisième chose qui m'a semblé, c'est peut-être la plus importante, c'est celle au niveau de l'inspiration de ce que j'ai reçu pour vous ce matin. Donc, comme on l'a dit, j'ai préparé. Hein, mais c'est la troisième chose qu'il a découvert. Je vous ai parlé il y a 15 jours du courage. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a parlé du courage il y a 15 jours. Et M. Samperini, il s'est aperçu que son courage à lui était limité. Et en particulier, je voudrais vous parler du courage qu'il faut. Le courage, c'est quoi? Excusez-moi. Hein. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est la persévérance à faire ce qui est bien. Celui qui est courageux, c'est celui qui a la persévérance à faire ce qui est juste, ce qui est bien. Donc, il persévère à essayer, malgré les apparences, malgré l'adversité, de faire ce qui est bien. Bien, M. Samperini, il a... La dernière chose qu'il a vécue, dont je voudrais vous parler, la première chose, c'est Dieu qui fortifie. Deuxième chose, c'est Dieu qui conduit. Mais la troisième chose, je donne le titre tout de suite, comme ça, vous n'aurez pas à attendre pour l'entendre, c'est Dieu qui donne le courage de pardonner. Il faut du courage pour faire plein de choses. Il faut du courage pour faire de la course à pied. Il faut faire du courage pour lutter contre la douleur. Il faut du courage pour lutter contre nos maladies, contre tous nos problèmes. Mais il faut du courage. Et ça, j'avais jamais bien compris, moi. Enfin, je ne l'avais jamais formulé, en tout cas. Il faut du courage pour pardonner. Pour pardonner, ce qui nous manque très, très souvent, c'est du courage. Pardonner, c'est juste. On l'a lu tout à l'heure. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On est d'accord. Mais pour pardonner, vous allez me dire, il faut de l'amour. C'est vrai, il faut de l'amour pour pardonner. Mais surtout ce matin, et c'est là-dessus que je voudrais insister, il faut du courage. Voilà la fin de la vie de M. Samperini. Dernière image, si tu veux bien. Voilà, donc là, c'est incroyable pour un homme qui a vécu tant de choses. Il a vécu jusqu'à 93 ans. Il est décédé à 93 ans, malgré les mauvais traitements. Donc, ça, vous voyez, ça nous laisse un petit peu de marge, nous qui n'avons peut-être pas subi tout ça. Et oui, il va vouloir retourner au Japon. Et en 1998, à 81 ans, c'est lui qui va porter la flamme olympique aux Jeux olympiques d'hiver. On le voit courir encore, il a la flamme olympique. Et puis le papy, à 81 ans, c'est lui qui porte la flamme olympique. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il la porte au Japon. Donc il y a un symbole fort qui a été voulu par les organisateurs des Jeux ici, qui est le fait qu'il porte cette flamme au Japon. Et au Japon, il y est retourné. Alors, il y est retourné en 1950. On est avant la dernière image, bien sûr. En 1950, il retourne au Japon. Et au Japon, il veut voir, il cherche à voir tous ces gens qui lui ont fait du mal. Et il y a une scène qui est très touchante dans le film, que j'ai du mal à vous faire sentir peut-être, mais il y a une grande pièce, et les Américains ont rassemblé les gens qui ont fait du mal à M. Zamperini, puis à d'autres gens qui sont passés dans les camps comme lui. Et puis, ces personnes ont des comportements très différents, et M. Zamperini décide d'avoir le courage de pardonner à ses bourreaux. Et on le voit qui passe dans la salle, mais il a du mal, hein. Et puis il le dit dans le livre, c'est mieux dit que dans le film. Mais il le dit, il y va pas comme ça. Jésus m'a pardonné, donc je vous pardonne. Non, c'est pas. C'est pour des choses sérieuses, hein. C'est pas pour des petites histoires qu'il y a eu entre des gens. Vous savez, des fois on se pardonne. On ferait bien simplement tourner la page puis de ne plus y penser. Hein. Il y a des fois on fait beaucoup d'histoires pour pas grand chose, je trouve. Mais là, non, c'est des vraies histoires, quoi, des vraies histoires de quelqu'un qui a été persécuté, qui a été battu, qui a été humilié en camp de concentration. Et on le voit qui passe vers ses bourreaux, puis il les prend comme ça, puis Dieu vous bénisse. Il bénit. Et on voit que c'est pas du cinéma. On sent dans le livre et on voit dans le film, c'est pas du cinéma. Il a du mal à le faire. C'est pas quelque chose qui est évident, c'est pas quelque chose qui est spontané. Il lui faut du courage pour pardonner, mais il le fait. Et au fur et à mesure qu'il le fait, là, effectivement, il reçoit de l'amour pour ces gens. Il cherche en particulier à revoir celui qui l'a persécuté, qui est le sergent Watanabe, et c'était le plus cruel dans le camp, hein, le gardien le plus cruel. Et il cherche à le retrouver, et ce monsieur n'a pas souhaité revoir son bourreau. Alors lui, il dit, je pardonne, mais comme il ne veut pas me voir, il n'arrive jamais à le revoir. Voilà ce sur quoi je voulais nous exhorter ce matin, sur ces trois choses. La première leçon que M. Zamperini a découverte, c'est Dieu qui fortifie. Je n'ai pas la force en moi-même pour certaines choses. Je suis limité dans mes forces, mais Dieu peut me fortifier. Rappelez-vous, même les adolescents. Ça veut dire que même des gens comme certains ici peuvent retrouver des forces, bon, peut-être pas physiques, je veux dire, mais encore que, on peut être rafraîchi par Dieu. On peut être rafraîchi, simplement. Hein. Moi, je dis, on vieillit, c'est comme ça, c'est bien. Ça fait partie des choses. Et puis, moi, j'aime bien cette photo du vieillard, à la fin, elle est belle. Un beau jeune homme, une belle jeune femme, c'est beau. Mais hein, je trouve qu'il y a des visages de vieillards. Il y a tellement d'histoires dans ces rites que... Il y a de la beauté là aussi, et ma foi, on vieillit et c'est comme ça, on n'est pas fait pour toujours rester jeune et tonique, mais Dieu peut nous fortifier, Dieu peut nous renouveler, en tout cas dans nos forces intérieures, dans notre âme, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Parce que croyez-moi, ce qui use le plus, hein, c'est pas forcément les mauvais traitements physiques, c'est les difficultés de la vie qui finissent par nous user, qui finissent par nous laminer, qui finissent par nous faire beaucoup de mal, par nous user. Ce qui use, c'est aussi difficile que les choses violentes qu'on a d'un seul coup. Il y a des choses qui usent. Et là, Dieu peut nous fortifier. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatigue, point. Première chose, Dieu peut nous renouveler dans nos forces physiques, morales, spirituelles. Deuxième chose, malgré les apparences, c'est Dieu qui nous conduit. Et si un jour on a adressé la parole à Dieu pour lui dire « Je te donne ma vie », c'est ce que M. Zamperini a fait dans son bateau, Dieu, tout ce qu'on lui dit, il passe pas. Vous savez, moi, on me dit souvent « Qu'est-ce que tu fais ?» Monique ou les enfants, ils me disent « Tu nous écoutes, papa ?» Parce que je suis parti un petit peu ailleurs. Ça m'arrive souvent, je dois reconnaître. Hein ?
Dans la lune.
Dans la lune, ouais, je sais pas, ou plus loin. Ou plus loin que ça. Mais Dieu, il n'est pas comme Sylvain. Et Dieu, il, quand on lui dit quelque chose sérieusement, hein, bien sûr, quand on dit quelque chose sérieusement à Dieu, quand on fait une déclaration, moi, je me souviens d'une déclaration que j'ai faite il y a 30, 40 ans à Dieu. Et si j'avais su... À l'époque, jamais j'aurais dit ça. Parce que c'était assez, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais c'était très engageant de ma part. Envers Dieu, c'était très engageant. Des fois, je me dis, tu aurais mieux fait de te taire ou de réfléchir un tout petit peu plus avant de l'avoir dit. Mais Dieu entend. toutes les promesses qu'on fait à Dieu, tous les engagements qu'on a devant lui. Quand on se fait baptiser, par exemple, hein, c'est un engagement particulier devant Dieu, Dieu, il n'oublie pas. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans la lune. Il entend et il note. Enfin, il note. Pas pour nous faire rendre des comptes, hein, mais parce qu'il est fidèle et que c'est lui qui veut nous conduire là où on lui a demandé de nous conduire. Puis la troisième chose, c'est que Dieu nous donne le courage de pardonner. Et croyez-moi, ça c'est quelque chose... je vous dis, moi, c'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques jours. Le courage de pardonner. Il faut du courage pour pardonner. Moi, je voyais le courage sous bien d'autres aspects, mais pas celui-là. Il faut du courage pour pardonner. Mettons ce courage en marche, et puis c'est Dieu qui va nous aider à pouvoir le vivre. Voilà, je vous propose qu'on puisse prier quelques instants. Dans ces trois directions, sentez-vous libre de vous exprimer, soit dans votre cœur, soit alors à haute voix, selon que c'est intime ou que ça l'est moins, ou que vous jugez que c'est bien de le dire à haute voix devant tout le monde, ou bien que vous jugez que c'est bien plutôt que vous le gardiez dans votre cœur. Dieu fortifie, Dieu conduit et Dieu donne le courage pour pardonner.